Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Virginie Fulpin, Victor Fourchet.
Il est 4h55 sur RMC, bienvenue à tous, bon réveil si vous vous réveillez avec nous, on va vous accompagner évidemment jusqu'à 7h pour le morning. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Victor, bonjour à tout le monde.
Tout va bien, malgré cette défaite de l'Angleterre chère à votre cœur?
Bah, disons que la semaine n'est pas idéale, on va dire.
Ça commence à faire beaucoup.
Mais bon, c'est comme ça.
Bonjour Anthony Kazmarek.
Bonjour à tous.
Bonjour Anthony. Bonjour à tous.
Et avec vous, on va évidemment surveiller la météo qui se rafraîchit quelque peu. Au programme aujourd'hui, ce vote historique qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Les députés ont approuvé la création d'une aide à mourir.
Enfin, la France se dote d'une loi permettant l'aide à mourir après plus d'un demi-siècle de combat. Ce n'est qu'une étape pour que ce droit soit effectif. C'était certainement l'étape la plus importante, mais le combat continue.
Soulagement et satisfaction pour Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, mais aussi pour de nombreux malades et leurs familles. Inquiétude et contestation pour les opposants au texte.
Alors on le sait, c'est un sujet intime, mais c'est une épreuve qui nous touche tous à un moment de notre vie, peut-être vous, peut-être un proche. On attend évidemment vos témoignages ce matin au 3216, vos interrogations, vos histoires également, tout ça sur le WhatsApp RMC également, 06 12 424 424.
Au programme aussi, le retour du leasing social, cette aide de l'État pour obtenir une voiture électrique à moins de 200 euros par mois. Il y a des critères, vous le savez, il faut travailler, gagner moins de 1500 euros net par mois environ et habiter à plus de 10 km de son travail.
C'est la troisième vague de ce leasing social. Déjà, on va voir si ça vaut le coup. Est-ce que vous en avez bénéficié? Vous nous appelez au 3216. Sinon, on veut savoir aussi si ça peut vous convaincre de passer à l'électrique. L'un des arguments au-delà de l'écologie, ça peut être bien sûr le prix des carburants, parce que la barre des 2 euros le litre est souvent dépassée à la pompe. Vous êtes nos yeux, vous, sur la route, on compte sur vous. Vous nous dites ce que vous constatez en station. Si ça vous a poussé aussi à faire des sacrifices pour les vacances.
Ce chiffre, 88 000, rien que cette année, c'est le nombre de signalements de violences sur mineurs recensés par l'Éducation nationale, selon son ministre. Ça fait, écoutez bien, environ 460 signalements par jour, en hausse de 19%. Édouard Geffray y voit les premiers effets de la nouvelle formule de l'éducation à la vie affective.
Enseignants, surveillants, directeurs, on a besoin de vous pour comprendre l'ampleur du phénomène. Est-ce que vous avez déjà reçu le témoignage d'un élève? Et comment on agit dans ces cas-là? Comment on réagit face à ces situations? Est-ce que l'école est devenue le lieu de libération de la parole? Vous participez au débat avec nous au 32-16 ce matin.
Il y a du monde en terrasse, du monde au camping, du monde sur la plage et souvent pas assez de bras pour s'en occuper. On parlera du manque de saisonniers à 5h50 avec Laura Krasniki, directrice générale d'Oh My Season. C'est une plateforme pour mettre en relation les travailleurs et les recruteurs. Tiens justement, de quand vous êtes invité au 32-16? Est-ce que vous galérez à embaucher cet été? Pourquoi, selon vous, est-ce que ça s'est amplifié d'année en année? Et puis de l'autre côté, côté salarié, vous venez aussi nous décrire vos conditions de travail.
Et puis vous le savez, comme tous les matins, on va jouer au mot caché à n'importe quel moment dans le morning. On va prononcer plusieurs fois. Allez, on vous le dit, un mot qui sort de l'ordinaire. Oui, on va être gentil, oui, bien sûr. Si vous l'identifiez, vous envoyez mot, M-O-T, par texto au 7-32-16 et vous gagnez...
Eh bien, vous gagnez, si vous êtes tiré au sort, votre Coffee Bird. C'est la machine expresso nomade d'Aquila que vous emmènerez partout avec vous, en voiture, en randonnée, à la plage. Elle vous servira évidemment un excellent café expresso. Alors, pour tenter de remporter cette machine, vous appelez le 32-16, touche 4, vous envoyez mot, M-O-T au 7-32-16. Vous restez bien attentifs, vous restez bien avec nous. Dans un instant, le journal de 5h. Mais avant ça, 4h59, Anthony Kazmarek, on jette un œil à la météo. On le dit, ça se rafraîchit un petit peu encore?
Oui, très légèrement, à cause ou grâce aux orages qui vont encore concerner beaucoup de régions aujourd'hui. Dès ce matin, le Bordelais, les Charentes, les Pyrénées, la plaine toulousaine, mais aussi Bretagne et Pays de la Loire. Et cet après-midi et ce soir, quasiment tout le pays sera concerné par un risque d'orage. Tout le monde n'aura pas forcément un orage, mais en tout cas le risque existera. Orage parfois violent avec de la grêle, de fortes rafales de vent. Quelques régions épargnées quand même, la côte d'Opale, le sud de la Garonne, la côte d'Azur et la Corse. Là, ça restera plutôt sec et ensoleillé. Et résultat, les températures vont encore baisser de quelques degrés. 24 à 28 sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. 28 à 34 partout ailleurs. 33 pour Paris et Dijon. Et encore 35-36 degrés entre l'Occitanie et la Provence. Résultat, 69 départements pour l'instant en vigilance orange canicule. Plus que 31 tout à l'heure à 6h. L'Île-de-France, une partie de l'Occitanie et le quart sud-est.
Bon réveil à notre écoute sur RMC dans le morning, il est 5h.
5-7, le morning RMC.
Et c'est le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, la fin du débat sur la fin de vie.
Définitivement adopté par le Parlement hier, ultime vote à l'Assemblée qui ouvre donc la voie à un droit à l'aide à mourir. On va tout vous détailler. Emmanuel Macron à Fontainebleau aujourd'hui pour saluer le travail des pompiers face aux incendies et la qualification encore miraculeuse de l'Argentine de Buzyn contre l'Angleterre hier soir à la Coupe du Monde.
Après de longues années de débats, le Parlement adopte définitivement le projet de loi sur la fin de vie.
Avec, oui, cet ultime vote, donc hier à la dimension historique, c'est dans la soirée à l'Assemblée.
Pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
Voilà donc les applaudissements des députés qui adoptent ce droit de l'aide à mourir, la réforme sociétale majeure de la présidence Macron pour entrer dans le cercle restreint des pays qui autorisent ce droit. Alors soyons très concrets, Thomas Becker du service politique RMC, dites-nous dans quelles conditions il pourra s'appliquer.
Ce droit sera réservé aux malades qui souffrent d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé en phase avancée ou terminale. Autre critère, que la souffrance du patient soit intraitable ou insupportable après avoir refuser tout traitement. Dernier critère, que le patient manifeste sa volonté de manière libre et éclairée. Si tous ces cas sont respectés, c'est à un médecin de prendre la décision sous 15 jours après avoir consulté l'avis non contraignant d'un spécialiste de la pathologie. Ensuite, la règle, c'est que le patient s'administre lui-même le produit létal. Un médecin peut s'en charger uniquement quand le patient n'est physiquement pas en mesure de le faire. Cette loi, réservée aux personnes majeures de nationalité française, est donc votée, mais sera complètement effective dans plusieurs mois. Les premières demandes devront donc attendre à minima la fin de l'année 2026.
Oui, et puis il reste l'étape du Conseil constitutionnel qui a été saisi à la fois par le président du Sénat et par le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Vous venez d'entendre les critères pour avoir le droit à cette aide à mourir. Vous étiez peut-être hostile à ce texte. Est-ce que ces critères vous ont convaincu? Et puis on sait que ce matin, hier soir, c'était un grand soulagement pour certaines familles de malades. Vous en faites peut-être partie. Vous venez témoigner au 3216 et sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Avant ça, dans l'hémicycle, durant les traditionnelles questions au gouvernement, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dressé le bilan, il était attendu, du réexamen des affaires de violences sexuelles sur mineurs qu'il avait demandé. Souvenez-vous, le mois dernier, c'était dans la foulée de l'affaire Liana, Sébastien Krebs.
Oui, d'ailleurs, l'entourage de Gérald Darmanin vante un pari réussi. Cette grande revue de près de 70 000 dossiers, ce coup de pied dans la fourmilière a eu des effets sur la période. Le nombre de suspects incarcérés a presque doublé et le nombre d'ouvertures d'informations judiciaires a triplé. La preuve pour la chancellerie que l'objectif est atteint. Ces dossiers sont maintenant traités et notamment les 970 enquêtes prioritaires dans lesquelles un suspect est déjà identifié, qu'il a des antécédents et que la victime est toujours mineure. Dossier qui ressemble en tout point à l'affaire Liana. Difficile de savoir combien de ces enquêtes avaient pris du retard, combien traînaient dans un tiroir, mais on sait que la moitié des plaintes étudiées datent de plus d'un an. Gérald Darmanin va maintenant recevoir un par un les 36 procureurs généraux pour identifier d'éventuels dysfonctionnements et manque de moyens.
Et concernant l'affaire Liana, le suspect Jérôme Barella a été mis en examen dans la soirée pour le meurtre et le viol de l'adolescente.
Il est 5h03 sur RMC. Emmanuel Macron se rendra à Fontainebleau aujourd'hui.
Oui, pour apporter son soutien, nous dit l'Élysée, aux 950 pompiers qui luttent contre le feu, désormais fixés à 60 km de Paris. Ils espèrent pouvoir permettre la réouverture de l'autoroute A6 qui est toujours fermée dans le secteur avant les départs en vacances prévus demain. En attendant, les habitants de la commune du Vaudouet, qui avaient été évacués près de Fontainebleau, eh bien, ils ont eu l'autorisation de rentrer chez eux, nous dit Caroline Renaud.
Son jardin jonché de cendres, ses fenêtres pleines de suie, rien qui ne pourrait gâcher le soulagement d'Annie.
Je suis content de rentrer chez nous, de retrouver notre maison. On se dit, on s'en va, mais peut-être qu'on ne la retrouvera pas.
Mais impossible de se défaire de cette boule au ventre.
C'est traumatisant. On ne va pas dormir profondément. Certainement se réveiller plus d'une fois en se disant, bon, j'espère que tout va bien, que ça ne va pas recommencer.
Les habitants scrutent donc la moindre cendres fumerolles.
Ouais, il y avait un truc, je l'ai noyé.
Ah, super. Comme Corinne.
En se promenant, on peut toujours voir s'il y a des flammes sous-jacentes ou quelque chose comme ça. S'il y a des départs de feu ou pour signaler tout de suite.
Un peu plus loin, Marine arpente la forêt, elle aussi, dans une odeur de brûlé.
C'est noir, c'est blanc, mais il n'y a plus de couleur, quoi.
Difficile de revenir entre les pins et les chênes noircis.
C'est vrai qu'on a notre fille qui ramasse des fleurs, qui fait des roulettes par terre dans la mousse. Voilà, bah ça, elle ne pourrait plus le faire.
Et au lieu du chant des oiseaux?
Là, on n'entend rien. Le vent, les moteurs, des engins, les sirènes, et il n'y a plus d'animaux, quoi.
Elle s'inquiète de devoir s'adapter à un paysage meurtri qui mettra des années à repousser.
Et alors, les deux suspects, dont le pompier volontaire de 18 ans, dans l'enquête sur l'origine de ces feux, ont été mis en examen et incarcérés dans la soirée. Sachez que dans le département du Lot, un jeune de 16 ans lui a été interpellé pour 5 possibles départs de feux depuis le début de l'été dans ce département. C'est ce que raconte ce matin le journal La Dépêche.
Et désormais, ce sont les orages qui touchent de nombreuses régions.
Comme hier après-midi à Aubenas, en Ardèche, où des grêlons gros comme des boules de pétanque sont tombés. C'est ce que nous raconte cette habitante.
On a tous été bien surpris parce que c'est arrivé d'un coup, hein. Le ciel a été un peu menaçant. Et les grêlons sont arrivés aussitôt. Des boules de pétanque, voilà, c'était le mot. Hein. Bah, ça a tout fracassé, autant les voitures que les toitures. Et des impacts dans tous les sens. J'ai ma toiture qui ressemble totalement à un gruyère. J'ai des infiltrations d'eau dans toutes les pièces. On nous annonce des gros orages dans 2 jours. Avec ce qu'on a sur le toit, j'ai pas envie de tomber chez mes voisins non plus.
Et si, comme Sandy, vous avez été touché par ces orages, si vous redoutez d'être touché dans les heures qui viennent, puisqu'il y a toujours eu une alerte, n'hésitez pas, vous venez témoigner au 32-16 ce matin avec nous.
La vitesse de l'éclair hier sur le Tour de France, on a vécu l'étape la plus rapide de l'histoire. Elle s'est courue à plus de 51 km/h de moyenne entre Vichy et Nevers. Imaginez un petit peu, où le néerlandais Søren Waringkolz s'est imposé au sprint. Et c'est depuis le circuit de Magny-Cours aujourd'hui que la 12e étape va partir, 179 km encore tout plein en direction de Chalon-sur-Saône. On est en pleine traversée de la France, hein, d'ouest en est, en direction des Vosges dès demain.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Le Mondial et les Bleus qui joueront donc contre l'Angleterre, samedi en petite finale du Mondial.
L'Angleterre qui a longtemps cru tenir le bon bout hier soir contre l'Argentine dans la deuxième demi-finale qui jouait à Atlanta. Gordon avait ouvert le score pour les Anglais avant l'heure de jeu, mais les Argentins se sont encore une fois réveillés en toute fin de match en inscrivant 2 buts à la 85e puis la 92e minute. Bref, le miracle argentin continue, Aurélien Tiersin.
L'émotion du siècle pour les Argentins. Lionel Messi a donné la passe décisive sur le but vainqueur à la dernière seconde et jouera sa 3e finale de Coupe du Monde après 2014 et 2022.
Une autre finale de Coupe du Monde, c'est fou. Je suis très heureux pour tout ce qu'on a fait de bien.
Et les supporters argentins se sont une nouvelle fois prosternés devant leur dieu, Lionel Messi.
Merci pour tout. Il est humble, fort, un patron, le meilleur du monde. 39 ans, il est encore là. Il surpasse tous les joueurs pro du monde.
Au stade d'Atlanta, l'ambiance était exceptionnelle. Un bonheur éternel pour Jaime.
Je ne sais même pas comment je me sens, mais c'est une folie. Le meilleur jour de ma vie. Je n'ai pas de mots. C'est une Argentine mythique, pleine de courage.
Le sélectionneur Lionel Scaloni est émerveillé par son groupe de joueurs.
C'est une joie pour notre pays, notre peuple. J'ai déjà dit que j'étais fier de mon groupe, mais la vérité, ça dépasse tout. Ce groupe est unique.
L'Argentine essaiera de conserver son titre face à l'Espagne dimanche en finale. Personne n'a plus réussi depuis le Brésil 1962.
Alors, les Argentins qui s'exposent à des sanctions de la FIFA, pourquoi? Eh bien, pour avoir brandi une banderole à la fin du match sur laquelle il était écrit « Les Malouines sont argentines », référence à la guerre dans les années 80 qui a longuement nourri cette rivalité sportive entre Argentins et Anglais. Côté anglais, l'attaquant Harry Kane disait hier soir qu'il était écœuré en critiquant la stratégie très défensive de son coach Thomas Tuchel une fois que son équipe menait au score. Ça promet, hein, avant la petite finale, donc samedi. Ça va aller très très vite maintenant. L'équipe de France partira dès aujourd'hui à Miami où se jouera ce match pour la 3e place.
Et ça va être 2 équipes un peu écœurées qui vont se retrouver samedi soir.
La finale des dépressifs.
Ouais. C'est un peu ça.
C'est horrible cette petite finale.
Puis c'est à 23h pour nous aussi, c'est pas simple.
En plus ce sera tard, mais je me mets à la place des joueurs. Il y a de quoi vous tarabuster. Hein.
ça, c'est sûr, ce sera sans doute beaucoup de joueurs qu'on peut jouer pour l'instant. Hein. Il va faire tourner son effectif, Didier Deschamps, pour sa dernière.
Oui, enfin, et pas question de perdre contre les Anglais non plus. Hein. Merci.
c'est clair. On sent le fan de rugby en vous également, Quentin Vinet. Merci pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actu, ce sera à 5h30. Mais d'ici là, on va accueillir Mario au 32-16. Bonjour Mario.
Bonjour Mario.
Eh bien, le bonjour à la belle équipe de RMC, aux auditeurs.
Allez, bonjour à vous. Et vous, comment ça va ce matin?
Chaudement, mais ça va, toujours en vie.
Ah oui, du côté de Bagnoles-sur-Cèze dans le Gard, il fait combien là ce matin, déjà chaud?
Alors là, il fait 21 degrés, ressenti 27, et chez moi, il fait 34 degrés.
Oh là là, c'est dur.
Non mais parce que c'est vrai que la canicule, tiens, je me tourne vers Anthony Kazmarek, la canicule, c'est pas du tout terminé. Hein,
C'est pas terminé, En fait, l'air chaud, il va se décaler justement dans les régions du sud-est, donc entre Occitanie et Provence. C'est là qu'il va continuer à faire chaud, au moins jusqu'à samedi ou dimanche, avec plus de 35 degrés encore l'après-midi.
Ah, et ça va arriver chez vous, Mario.
Mais chez nous, depuis juin, elle n'a pas terminé. Hein. On a des nuits caniculaires. On se croirait dans la jungle amazonienne, c'est affreux.
Et c'est ça le problème, c'est la nuit, quoi. La nuit, en fait, vous n'arrivez pas à vous reposer.
Ah, et surtout qu'on n'arrive pas à refroidir les murs à l'intérieur, surtout que là, franchement, en plus, je cherche un journaliste s'il faut pour RMC, parce que mon propriétaire, lui, il a mis une isolation à la cour à l'extérieur, qui maintenant a envahi d'humidité et de cafards, donc on ouvre le matin de bonne heure au lever du soleil, on ouvre le matin vers le soir au coucher du soleil, et on est obligé de fermer les fenêtres, parce que sinon on est envahi de cafards, donc et le propriétaire ne veut rien faire. Ouais. Ça aussi, c'est une autre
question. Et c'est parfois, évidemment, toutes les difficultés entre locataires et propriétaires. Et malgré tout, vous utilisez toutes les bonnes astuces. Hein. On ouvre quand il faut, on ferme quand il faut. Et parfois, c'est pas suffisant. Merci beaucoup, Mario.
Merci
de nous avoir appelé ce matin, de nous avoir dit bonjour. Et comment vous allez? Vous faites comme Mario, vous composez le 32-16. Ou on lit vos messages sur le WhatsApp aussi au 06 12 424 424.
Dans un instant, c'est la solution qu'on sent avec Anthony.
Et vous savez qu'on manque d'eau actuellement, que l'eau en plus, ça coûte cher. Alors, je vais vous dire ce qu'on peut faire avec l'eau de pluie et les eaux usées à la maison.
Mais avant cela, c'est le choix de la rédaction avec vous, Louis Salé. Bonjour.
Bonjour.
4 personnes sur 10 se disent très inquiètes, justement, face au changement climatique. On parle d'éco-anxiété, c'est-à-dire un état de détresse mentale et émotionnelle avec, il faut le dire, de vraies conséquences sur la vie quotidienne.
Oui, des angoisses sérieuses hein, qui nécessitent parfois un suivi psychologique. Et en ce moment, certains professionnels reçoivent beaucoup de sollicitations à ce sujet.
À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Excellent début de journée à vous sur RMC, il est 5h13.
RMC, le choix de la rédaction.
Alors, on s'approche, pas dans toutes les régions, mais de la fin de la troisième canicule de l'année, avant le retour peut-être d'une nouvelle vague. Et avec elle, l'air suffocant à plus de 40 degrés, la menace des incendies, le manque d'eau, autant de conséquences du changement climatique qui se répètent chaque été de façon plus intense. Bonjour Louise Salé.
Bonjour.
Et tout ça alimente, Louise, l'angoisse des Français, peut-être vous. D'ailleurs, au 32-16, vous nous appelez. Ce mal-être, il a un nom, ça s'appelle l'éco-anxiété. Et les psychologues spécialisés observent une hausse des demandes de suivi à ce sujet. C'est ce que vous avez constaté, Louise.
Oui, j'ai discuté avec Simon. Il est ingénieur, il est père de 2 enfants et il se dit éco-anxieux. Alors d'après le dictionnaire, c'est une forme d'anxiété liée à un sentiment d'impuissance face au dérèglement climatique. Ce n'est pas une maladie mentale, mais c'est un état de détresse psychologique. Simon est suivi spécialement sur ce sujet depuis 1 an et ces 2 derniers mois, il a multiplié les séances pour tenir le coup.
J'ai des bouffées d'angoisse, de stress. Moi, je suis extrêmement inquiet pour mes enfants et surtout très triste. La végétation dépérit, ça m'angoisse de façon désespérante. Et je me dis que dans 10 ans ou 20 ans, si c'est bien pire, je ne sais pas comment on pourra faire.
Cette peur de l'avenir, hein, Lucie, 27 ans en région parisienne, la ressent aussi.
Le jour où on se tape 50 degrés et on a des pénuries d'eau, il n'y a aucun de nous qui est prêt à ça aujourd'hui, quoi. Mais oui, je pleure beaucoup. Il y a des choses que je vois sur les réseaux, notamment des vidéos de la Loire qui était devenue tellement chaude que sur tous les bords de Loire, t'as des milliers de poissons morts qui flottent, quoi. Et de se dire, mais en fait, tout ça, c'est juste de notre faute, quoi. Enfin, je pense qu'on va avoir énormément de morts humains aussi à la suite de toutes ces canicules, en fait. Et ça va être de pire en pire.
Elle voit une psychologue hein, depuis longtemps pour des angoisses sans lien avec le changement climatique, mais elle aborde souvent en consultation cette inquiétude qui la ronge.
Et est-ce qu'on peut quantifier le nombre de consultations sur l'éco-anxiété en ce moment ?
C'est compliqué, hein, c'est difficile à mesurer, mais les psychologues spécialisés que j'ai interrogés remarquent une hausse des suivis depuis la canicule de mai. Ils font partie d'un réseau de professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Et la psychologue Anne Jacob fait partie de ce collectif. Elle exerce à Nantes.
En l'espace de 2 semaines, j'ai eu 3 fois plus de demandes que ce que j'ai d'habitude en un mois. Certains sont profondément catastrophés, si ce n'est désespérés. Il y a des personnes qui se posent la question de est-ce qu'on va avoir assez à manger. Là, j'ai une séance qui m'a quand même un peu chamboulée avec une personne qui a pu exprimer des pensées suicidaires.
Elle reçoit aussi des gens qui n'avaient jusqu'ici pas de conscience écologique, mais qui ressentent cet été un stress important lié à l'organisation de journées perturbées par la chaleur, de vacances proches de feux de forêt ou d'activités professionnelles chamboulées par les canicules. D'après l'INSEE, dans une étude publiée en mai, 2 Français sur 5 sont très inquiets des effets du dérèglement climatique. Et d'après l'Agence de transition écologique, l'ADEME, 1/4 des Français sont donc éco-anxieux, davantage dans les zones urbaines, parmi les plus diplômés et surtout les femmes.
Et comment faire alors pour soigner cette éco-anxiété?
Il y a des solutions, hein. Réfléchir à s'adapter au climat qui change, s'entraider aussi collectivement, penser aux plus vulnérables, agir aussi concrètement contre le dérèglement climatique. Alors bien sûr, les gestes individuels, hein, c'est une goutte d'eau dans l'océan d'efforts à faire pour que le monde entier n'émette plus de CO2. Mais il est possible de faire passer des messages, de sensibiliser. Lucie, par exemple, est chef de cuisine végétarienne et ce qui la motive, c'est d'inventer des repas savoureux qui réduisent l'empreinte carbone des assiettes de ses clients et qui suscitent aussi leur envie de consommer moins de viande.
Merci Louise Salé pour votre sujet sur l'éco-anxiété. Puis vous êtes peut-être, vous qui nous écoutez, éco-anxieux. Peut-être que c'est nouveau, dû à ces canicules qui se suivent et se ressemblent. Vous pouvez nous appeler bien sûr ce matin au 3216, on en parle ensemble.
Il est 5h17. Et ça y est, Mathias Luguin nous a rejoint. Bonjour Mathias.
Bonjour Victor, bonjour à tous.
Parce que c'est l'heure des choix de la bande, ces infos qu'on a dénichées dans la presse. Est-ce que vous me permettez de commencer ce matin?
Ah bah faites-vous plaisir.
Alors voilà, ça me fait plaisir.
Vous refusez rien, vous.
Bah c'est dit si gentiment en plus. Non, vous savez, on a tous deux passions qui n'ont, à première vue, pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mathias, ce serait les jeux vidéo et les macramés. C'est véridique, j'ai vérifié mes sources. Virginie, ce serait par exemple le foot et le fait de gagner des titres.
Oui, on va savoir.
En tant que supporter de l'Angleterre, voilà, par exemple, deux choses qui n'ont rien à voir. Eh bien, figurez-vous que pour Victor Wembanyama, notre star française du basket, eh bien, c'est la balle orange, le basket évidemment, et les échecs. Sauf que lui, il a les moyens de réunir ces deux passions qui n'ont rien à voir. Il a annoncé hier l'ouverture de la billetterie du Hoop Gambit, 2e édition de cet événement qui réunit tournoi de basket et tournoi d'échecs sur 2 jours. Alors ce sera le 8 août au Chénérault-Cancourt, la ville natale de Wemby, et le 9 août à Nanterre. Ça part assez vite, les places. Il y a un gros succès pour cet événement. L'an dernier, ces places, elles s'étaient écoulées en moins de 24 heures. Alors je propose qu'on dévoue, qu'on forme une équipe là, une équipe morning.
Voilà. Et vous savez que Michael Olise est un grand fan d'échecs aussi. Hein.
Eh ben on pourra l'inviter
l'emmener.
Aussi.
Voilà.
Ben
voilà. Allez,
alors qui s'attaque au basket?
Ah, pour être avec Michael Olise.
Et Mathias, on l'envoie aux échecs, on n'est pas sûr, mais bon, on va
tenter. Parce que moi je suis nul aux échecs, en revanche.
À vous Virginie.
Alors dans la ville japonaise de Shizukuchi, l'ennemi public numéro 1 est un ours.
Oh. Tiens, voilà quelqu'un, petit ours.
Bah là, tout de suite, on tremble.
Voilà. Mais en début de semaine, l'ours en question a été pris en flagrant délit en train de piller le réfrigérateur d'un couple. L'animal a pris la fuite. Il faut dire que c'est un récidiviste. Au cours des derniers jours, il a été aperçu plusieurs fois dans des bâtiments agricoles en train de voler de la nourriture destinée au bétail. Une autre habitante l'a vu débarquer chez les ailes 5 fois. Il a dévalisé une confiserie aussi. En tout, l'ours est soupçonné de 14 délits en quelques jours.
Ah, quand même.
La police locale est sur le coup et veut le capturer le plus vite possible. Alors oui, ça pourrait être rigolo comme ça, comme histoire, mais en fait, pas du tout. Parce que pourquoi cet ours entre dans les habitations? Parce qu'il a faim. Au Japon, les ours se rapprochent de plus en plus des villes et des villages. En 2025, il y a eu pas moins de 13 attaques mortelles.
Ah oui.
Ah oui. En fait, les ours subissent deux choses. La réduction de leur habitat naturel à cause de l'urbanisation et le réchauffement climatique qui détruit de nombreuses plantes dont il se nourrit. Eh ben oui, donc il se rapproche des habitations pour trouver à manger, tout simplement.
Ah oui,
ça va pas réduire notre éco-anxiété.
Oui, c'est clair. Alors, notre petit ours brun à nous, c'est Mathias Luguin, et il est beaucoup plus sympa. De quoi parle-t-on, Mathias? Oui.
Ce matin, je vous emmène au resto. Direction Ramatuel, près de Saint-Tropez. Oui, je me moque pas de vous, hein. Fallait au moins un repère de star sur la Côte d'Azur. Le club 55, vous imaginez que c'est pas donné, hein, là-bas. Autant que c'est Victor qui passe à la caisse à la fin, on s'en sort pas trop mal. Dans cet établissement, il y a un plat qui fait le buzz en ce moment sur le réseau et qui a surpris les clients, le panier de crudité. Une entrée proposée à 44 euros sur la carte. Bon, le prix, ok, pour l'endroit,
mais
d'accord.
Non, ok.
Mais ce qui choque, ok, ouais. Mais si vous voulez, c'est pour les stars. Mais ce qui choque, c'est que ce panier, il porte bien son nom, puisqu'on vous apporte une montagne de légumes. Il y a des carottes, il y a des tomates, des poivrons, des oignons, chou-fleur, céleri. Sauf que tout ça arrive brut, ni épluché, ni coupé,
non,
peut-être lavé.
On nous apporte un économe avec, ça porte très mal son nom, là.
Sorti du marché. Et j'ajoute que pour ce prix, eh bien, le pain et la sauce ne sont pas inclus. Une touriste dit avoir payé 70 euros pour le tout. Elle se demande d'ailleurs, que suis-je censé faire avec un oignon entier cru? Bon, elle est en train de tenir un fenouil, mais alors ça, c'est un autre débat. Coût estimé de cet assortiment de légumes sur le marché du coin, 11,25 €. Pour ce prix, tout pareil qu'au resto, évidemment.
Oh bah oui, c'est sûr.
100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran.
Attendez,
je me demande comment on se dit, ah bah tiens, je vais commander ça. En fait, j'arrive pas trop à comprendre.
Bah surtout en voyant ce prix-là sur la carte. Ceci dit, c'est le genre de resto où il n'y a pas marqué les prix sur la carte. On se fait rapidement piéger. Merci beaucoup, Mathias. 5h22 sur RMC, les astuces conso dans un instant. Mais avant ça, Virginie, vous nous rappelez les trois grands titres de l'actualité.
La proposition de loi sur le droit de l'aide à l'aide à mourir, définitivement adoptée hier soir à l'Assemblée nationale. Cette loi prévoit d'autoriser le suicide assisté avec une série de conditions pour les malades atteints d'une affection grave et incurable. Un nouveau droit qui devrait être effectif début 2027. Emmanuel Macron se rend à Fontainebleau ce matin pour apporter son soutien aux pompiers qui luttent contre le feu et aux habitants. Le parquet de Fontainebleau a ouvert une information judiciaire pour destruction par incendie. Le pompier volontaire qui a reconnu son implication a été mis en examen et placé en détention provisoire. Et puis l'Argentine, une nouvelle fois renversante pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde. Victoire 2-1 contre l'Angleterre et les coéquipiers de Lionel Messi affronteront l'Espagne dimanche soir. C'est donc face aux Anglais que l'équipe de France disputera le match pour la 3e place samedi.
5h22 sur RMC.
RMC, la solution conso.
Et tous les matins, nous n'avons pas besoin de nous tarabuster pour trouver des astuces conso. C'est Anthony Kaczmarek qui nous les fournit. On parle beaucoup, Anthony, de sécheresse actuellement, avec d'ailleurs des restrictions d'usage de l'eau du robinet dans de nombreux départements. Et l'eau à la maison, on a souvent tendance à vouloir l'économiser parce que ça coûte cher.
Oui, près de 4,70 € le mètre cube d'eau en France en moyenne cette année. Alors un mètre cube, c'est 1000 litres. En moyenne, une semaine de consommation d'eau pour une personne. Il y a d'importantes disparités régionales. Un prix qui a doublé en 30 ans et qui devrait encore progresser jusqu'à 6% par an environ d'ici 2030 pour répondre aux exigences environnementales et aussi pour rénover le réseau. Alors forcément, on a tendance à vouloir payer moins et donc à trouver d'autres solutions comme les eaux de pluie ou les eaux usées pour certains usages communs.
Alors justement, l'eau de pluie, on peut l'utiliser à la maison ?
Alors oui et non, pas pour tous les usages. D'abord, vous pouvez uniquement collecter l'eau de pluie qui descend de vos toitures inaccessible. Et en plus, celle-ci n'est pas potable, hein, je le rappelle. On ne peut pas la boire, donc, ni l'utiliser en cuisine pour laver la vaisselle ou pour son hygiène corporelle. Tout ça est très sérieux, hein. C'est dans le code de la santé publique qui explique qu'on peut, en revanche, avec l'eau de pluie, arroser son jardin, alimenter des fontaines décoratives, laver son linge, nettoyer le sol, à l'intérieur comme à l'extérieur, et aussi alimenter les chasses d'eau des toilettes. D'ailleurs, il y a un débat qui a été lancé par le maire LR de la Baule, Franck Louvrier, qui demande aux parlementaires de s'en saisir. Faut-il encore gaspiller de l'eau potable pour remplir les chasses d'eau? Ça, c'est un beau débat. Et rien n'interdit non plus de remplir sa piscine avec l'eau de pluie, à condition de la filtrer, de la traiter régulièrement pour ajuster le chlore et le pH.
Autre question, est-ce qu'on peut récupérer l'eau de la douche ou de la machine à laver?
Bah oui, totalement. Là, on parle de ce qu'on appelle une eau grise, une eau produite par les activités domestiques et issue des douches, baignoires, lavabos ou lave-linge. Et cette eau peut servir à tirer la chasse d'eau, là encore, alimenter les fonds fontaines, nettoyer les extérieurs et arroser les espaces verts. Le dispositif doit être séparé du réseau d'eau potable et déclaré au préfet du département. C'est une sacrée démarche hein, quand même. Enfin, sachez que creuser un puits dans son jardin ou sur son terrain est soumis à des conditions drastiques, avec formulaire, analyse, et que laver sa voiture chez soi est interdit par le code de l'environnement. Bah oui, puisque cela rejette dans le sol ou le réseau d'eau des métaux lourds et des hydrocarbures. Alors deux solutions, la station de lavage qui, elle, traite de manière spécifique ces eaux usées, ou le lavage sans eau, c'est possible, avec des produits biodégradables à vaporiser et un chiffon microfibre pour essuyer.
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Oui, c'est lui qui avait raison.
C'est vrai.
Oui,
décidément, ça va bien nous tarabuster, cette éco-anxiété là. Merci beaucoup, Anthony. La solution conso, c'est tous les jours, sur RMC, tous les matins, et puis quand vous voulez, en podcast.
Allez, dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demanche, et puis surtout vous, au 32-16. À tout de suite.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Virginie Fulpin, Victor Fourchet.
5h27 sur RMC, merci d'être avec nous et bon réveil. Je vous rappelle qu'on joue ce matin, on joue au mot caché, ce mot qui sort de l'ordinaire et qu'on prononce, qu'on a prononcé d'ailleurs déjà dans le morning. Si vous pensez l'avoir identifié, vous envoyez mot, M-O-T par texto 73216 et vous serez peut-être tiré au sort pour remporter votre Coffee Bird, la machine expresso nomade d'Aquila.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Le mot caché sur RMC avec la machine expresso Coffee Bird d'Aquila qui vous sert un excellent café vraiment partout. Aquila, vivez l'aventure sans limite.
Le meilleur d'Arnaud Demanche sur RMC, c'est tout à l'heure dans la Pauline Matin, mais on va tout de suite avoir un petit avant-goût.
Nicolas Sarkozy a donné un grand entretien au Point, et pour l'ancien président, Jordan Bardella aurait pu être un jeune du RPR des années 90.
Ouais, son papa aurait été Alain Juppé, sa maman Charles Pasqua. Ah, j'aurais bien aimé voir la nuit de noces. Dis donc, Charles, je ne te savais pas si séduisant.
Oh, Alain, qu'est-ce qui nous arrive? Sens-tu la chaleur monter?
Allez, en piste, enlève ton pantalon. Et 9 mois plus tard, Jordan Bardella naissait. Non, en fait, on n'aurait pas aimé voir la nuit de noces. Alors, Nicolas Sarkozy le dit dans son livre, il ne veut plus faire barrage systématiquement au RN, il trouve que ça sert à rien. Donc, en 2027, il n'appellera pas forcément à barrer la route à Marine Le Pen, voire il n'appellerait pas du tout à lui barrer la route, voire il appellera à voter pour elle. De toute façon, je vois, il le dit dans son bouquin, page 88, je cite, « Je vais pas voter pour ces connards de LR qui m'ont même pas envoyé un SMS, alors qu'au RN, ils ont été sympas. » Je traduis
un
peu.
C'est ça, vous traduisez quand même un petit peu.
Je ne trahis pas l'esprit, mais c'est un peu traduit. Je le dis avec mes mots à moi.
Allez, pour plus d'Arnaud Demanche, vous avez rendez-vous à 8h20 dans Apolline Matin sur RMC et sur RMC Story. Dans un instant, la météo et le journal de 5h30. La météo, c'est avec Anthony Kazmarek, avec ces orages qui arrivent.
Oui, des orages qui vont se déclencher dès ce matin sur la Bretagne, Pays de la Loire, les Charentes, le Bordelais, mais aussi entre les Pyrénées et la plaine toulousaine. Et cet après-midi, quasiment toutes les régions seront concernées par ce risque d'orage. Alors quand vous n'en aurez pas, vous aurez plutôt un ciel voilé, mais un temps lumineux assez ensoleillé. Orages qui seront parfois violents, avec de la grêle, de fortes pluies, de fortes rafales de vent. Ils atteindront certainement l'Île-de-France, la frontière belge en soirée, mais ils épargneront quand même le sud de la Garonne, la Côte d'Opale, la Côte d'Azur et la Corse, où là le soleil va résister. Et puis les températures en baissent. Cet après-midi, c'est toujours chaud ce matin, avec déjà 16 à 27 degrés. Mais cet après-midi, entre 24 et 28 près de la Manche et de l'Atlantique, 28 à 34 degrés partout ailleurs, 33 à Paris et 35 à 36 de l'Occitanie à la Provence.
Vous êtes bien sur RMC, il est 5h30.
5-7, le Morning RMC.
L'heure de retrouver Thibaut Texer pour le journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Victor, bonjour Virginie, bonjour à tous.
Plus de 670 personnes incarcérées depuis l'affaire Liana.
Premier bilan du réexamen des plaintes pour violence sur enfants réclamées par Gérald Darmanin qui annonce un millier de dossiers jugés prioritaires. Emmanuel Macron salue l'adoption définitive par l'Assemblée nationale de la loi légalisant l'euthanasie et le suicide et le retour du leasing électrique pour les foyers les plus modestes.
Jérôme Barella mis en examen pour le viol et le meurtre de Liana.
Confronté à de nouveaux éléments face au juge d'instruction hier, le principal suspect dans la mort de la jeune collégienne a fait valoir son droit au silence. Dans le sillage de cette affaire, Gérald Darmanin avait demandé le réexamen des plaintes en cours pour violences physiques et sexuelles sur des enfants au nombre de 85 000. Le ministre de la Justice a livré un premier bilan chiffré sur 70 000 dossiers. Près d'un millier ont été jugés prioritaires. 1350 informations judiciaires judiciaires ont été ouvertes. 675 personnes incarcérées, fruit d'un important travail mené, Pierre Bazin, par la justice française.
Abdelkrim Grini fait partie des procureurs qui ont examiné toutes les plaintes pour violences sexuelles sur mineurs directement dans les services enquêteurs. À Alès, chez lui, cela a conduit au placement en détention provisoire de 4 personnes.
L'immense majorité des procédures que nous avons répertoriées sont des procédures assez récentes, entre 12 et 24 mois maximum.
Toutefois, des plaintes plus anciennes ont également été mises au jour à cette occasion.
Un dossier de 2023 qui revêtait malgré tout un caractère d'urgence, mais dont notre parquet n'avait pas connaissance. En voyant ce dossier, j'ai donné des instructions précises. Et dès le lendemain ou le surlendemain, la personne qui était mise en cause a été interpellée, placée en garde à vue sur mes instructions et ensuite mise en examen.
Cette opération qui visait à empêcher une nouvelle affaire Liana a toutefois mobilisé beaucoup de forces, selon Frédéric Chevalier, le président de la Conférence nationale des procureurs.
Il va falloir qu'on retrouve un rythme normal, mais que l'on conserve cette capacité à pouvoir suivre les enquêtes que l'on demande dans les services de police et de gendarmerie.
Plusieurs magistrats réclament notamment de nouveaux outils informatiques pour mieux suivre les procédures et des renforts dans certains parquets.
Et les 36 procureurs généraux doivent désormais être reçus par le ministre afin d'identifier d'éventuels dysfonctionnements et manque de moyens.
Il est 5h32 sur RMC, sans surprise. Le texte sur la fin de vie définitivement adopté à l'Assemblée nationale.
Voté à 291 voix contre 241, il ouvre le droit à mourir dans la dignité et légalise sous strictes conditions l'assistance au suicide. Avec gravité et humilité, cet engagement est tenu, réagit Emmanuel Macron, fervent défenseur de cette réforme sociétale majeure, l'une de ses promesses de campagne, entérinée par une Assemblée empreinte de retenue, Sonia Gobry.
Dans un hémicycle inhabituellement calme, les députés écoutent la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, ton solennel.
L'Assemblée nationale a adopté.
Les députés pour la loi fin de vie applaudissent. Certains lèvent les yeux vers les tribunes. On y voit l'ex-député Modem, Olivier Falorni. À l'initiative de ce texte, il sourit, visiblement ému.
J'ai l'impression d'avoir vécu une interminable odyssée pour une loi qui rentrera, j'en suis persuadé, dans l'histoire. L'Assemblée nationale a montré le plus beau visage d'elle-même.
Yael Braun-Pivet se dit très fier de présider cette assemblée qui a tenu plus de 250 heures de débats respectueux sur ce sujet éthiquement sensible.
Ce qui en fait, depuis les années 80, le plus long débat parlementaire que nous ayons eu sur un texte.
Mais pour les détracteurs du texte, comme le député RN Christophe Benz, le débat a été tranché trop vite, même s'il y a eu 4 votes favorables à l'Assemblée.
Vote après vote, l'écart s'est réduit. De moins en moins de députés ont été favorables et de plus en plus de députés sont sceptiques, voire opposés. J'y vois quand même un signal positif, d'autant que le combat n'est pas totalement terminé.
Il espère maintenant que le Conseil constitutionnel réduira la portée de cette loi sur la fin de vie.
Un texte majeur, réforme importante et moment, difficulté qui nous touche tous, sujet intime. On vous attend évidemment au 32-16 pour recueillir vos témoignages et votre émotion, peut-être votre soulagement si vous êtes famille de malades incurables. Ça se passe aussi sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
950 pompiers toujours à pied d'œuvre pour lutter contre les flammes à Fontainebleau. Emmanuel Macron est attendu sur place dans la matinée alors que 2 personnes ont été mises en examen et écrouées hier, parmi eux un jeune pompier volontaire soupçonné d'être à l'origine d'un départ de feu dans cette forêt poumon vert de Paris.
Aucun signe d'accalmie au Moyen-Orient, bien au contraire.
Les États-Unis ont poursuivi leur frappe en Iran cette nuit et en menace désormais de bloquer davantage les voies régionales nécessaires à la livraison énergétique. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes avec des prix à la pompe qui repartent à la hausse. Le gazole a de nouveau franchi la barre des 2 euros au litre. Dans ces conditions, pourquoi ne pas passer à l'électrique? C'est aujourd'hui que le gouvernement lance la troisième vague du leasing social permettant la location longue durée d'un véhicule non polluant neuf à moins de 200 euros par mois destiné à Najoja. Aux foyers les plus modestes.
C'est pour moins utiliser sa voiture diesel dans les trajets du quotidien que Benjamin fait sa demande pour un leasing social.
Le véhicule que je vise, il coûte 109 euros par mois. Mon loyer équivaut à un plein de gasoil que je ne ferais plus sur ma voiture actuelle. Sans ce dispositif, j'aurais pas pu me permettre d'avoir un véhicule électrique.
Mais d'autres candidats au dispositif sont eux refroidis par le coût final de l'opération, comme Paul qui s'est renseigné pour un véhicule annoncé à 139 euros par mois.
Et on se rend vite compte qu'en fait, arrivant en concession, la prise domestique, on la prend ce qu'on en a besoin, c'est 400 euros de prestations en plus. Puis la vitre de gravage, c'est 200 euros. On va se faire comprendre fortement qu'il faut prendre aussi l'assurance et l'infinité. On se retrouve à payer des 180, voire 200 euros par mois.
Et les modèles éligibles à ce leasing social ne seraient pas toujours adaptés aux foyers les plus modestes, selon Marc Bruchet, président de la branche concessionnaire à Mobilience.
Les ménages les plus contraints, ils sont monomotorisés. Ils ont besoin d'un véhicule qui soit polyvalent. Alors évidemment, le véhicule électrique, il n'est pas du tout adapté. D'autant que pour faire baisser les prix, vous avez des véhicules qui sont équipés de petites batteries.
Et il plaide plutôt pour un dispositif de prime à la conversion vers des véhicules moins polluants.
Alors, vous avez entendu certaines réticences envers ce leasing social. Est-ce que vous l'avez testé ? Est-ce que vous en avez bénéficié, vous, chez vous ? Vous nous le dites évidemment au 32-16 et vous venez aussi réagir sur le fait de savoir si jamais ça pourrait vous convaincre de passer à une voiture électrique. Ça se passe aussi sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
L'Argentine va défendre son titre en finale de la Coupe du Monde, Thibaut.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Mené 1-0, l'Albi Céleste a renversé l'Angleterre dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Victoire 2-1 grâce à Lionel Messi des grands soirs. C'est lui qui délivre les deux passes décisives qui permettent aux Argentins de rejoindre l'Espagne pour la grande finale dimanche soir 21h. Et c'est donc l'Angleterre qui jouera pour la troisième place face aux Bleus samedi 23h, dernier pour Didier Deschamps. Et ses joueurs qui vont s'envoler pour Miami ce jeudi.
Le foot a un tout autre échelon. On parle de Bordeaux, ancien grand club de Ligue 1, évidemment menacé de liquidation judiciaire.
Faute de fonds suffisants et d'investisseurs, le club a été exclu de toute compétition nationale par la DNCG. Et c'est donc en régional 1 que les Girondins évolueront l'an prochain, David Alias.
Trois fois champion de France avec les Girondins de Bordeaux, René Girard n'a pas pu contenir son émotion à l'annonce de la rétrogradation.
J'ai vécu une histoire d'amour avec les Girondins, que ce soit sur le terrain ou autre. Et quand j'entends ça, quand je vois ça, je suis outré. Je me demande comment un club de standing-là peut se trouver dans une situation pareille.
Plus de 5 ans que le club connaît d'énormes difficultés financières et ne parvient pas à se relancer administrativement. L'ancien attaquant bordelais Christophe Dugarry a exprimé sa colère à l'encontre du propriétaire du club hier à l'antenne d'RMC.
J'ai plus envie de voir Gérard Lopez. Ça fait des années qu'on assiste au bal des incompétents, au bal des voleurs, au bal des mythos, parce que c'est insupportable. C'est notre club qui en paie le prix. Les salariés, c'est des gens qui aiment le club.
Défenseur puis entraîneur adjoint des Girondins, Mathieu Chalmé regrette que la direction ait tenté de maintenir le club à flot sportivement coûte que coûte.
J'étais partisan du fait que ces gens-là devaient partir il y a longtemps, assainir le club et repartir sans dette. On se dit presque qu'on a perdu 3 voire 4 ans à essayer de batailler alors que je savais comment ça allait se terminer.
Bordeaux est également sous le coup d'une liquidation judiciaire, une décision que pourrait prononcer le tribunal de commerce d'ici la fin du mois.
Et puis on se dirige vers un nouveau sprint ce jeudi sur la route du Tour au lendemain de l'étape la plus rapide de l'histoire de la Grande Boucle, 50 km/h de moyenne, remportée à la surprise générale par le Norvégien Søren Varenskold.
Les courses, ça se passe à Compiègne aujourd'hui.
Et c'est à 20h15, le 5 The Shadow et le favori de la Dream Team RMC Outsider, c'est le 5 Zakocha, le 5 et le 4.
Merci Thibaut Texer pour le journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur RMC, ce sera à 6h. D'ici la direction, le 32-16 pour retrouver Ludo. Bonjour Ludo.
Bonjour.
Vous vouliez réagir à donc l'adoption de cette loi sur la fin de vie et l'ouverture à un droit pour une aide à mourir. Je crois que vous ne faites pas forcément partie des partisans de ce texte.
Non, absolument pas. Déjà, le terme droit pour une aide, c'est vraiment gênant. Je trouve que c'est la pire loi que les macronistes nous aient pondue sur 10 ans.
Pourquoi ?
C'est d'un cynisme incroyable. Tout le monde a très bien compris que c'est pour des raisons financières.
C'est-à-dire
En fait, on va se débarrasser de gens coûteux en leur proposant la mort comme un échappatoire. Et tout ça couplé à la dégradation de la qualité des soins, il y a des gens qui vont choisir ça, et c'est grave.
Alors je rappelle qu'il y avait deux versants à ce texte. Il y a le texte sur effectivement l'aide à mourir. L'autre versant de ce texte, c'était sur le renforcement des soins palliatifs. Vous entendez aussi Ludo, on l'a diffusé dans le journal tout à l'heure, de ces familles et de ces malades qui eux disent qu'ils militaient pour avoir le droit de mourir dans la dignité et qui disaient mais en fait laissez-moi choisir finalement. Ça ne vous touche pas.
Non, je pense pas qu'on puisse régir toute une société sur des cas particuliers. Je suis pas sans cœur, hein. Je comprends très bien ce que vivent ces gens, mais on peut pas en faire un modèle. C'est pas possible.
Mais c'est lutte de plusieurs années pour eux. Vous comprenez ce qu'ils peuvent ressentir?
Je comprends, bien sûr, mais non, on peut pas en faire une règle. Ça va avoir des effets pervers et c'est grave.
Vous craignez donc, on a entendu, Ludo, les effets pervers de cette loi, malgré, je le rappelle, plusieurs critères, et notamment que le patient qui souhaite nécessiter de cette aide à mourir doit être libre, éclairé, qu'il doive souffrir d'une maladie incurable en phase avancée ou terminale, ou qu'il soit victime de douleurs insupportables et intraitables. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé votre point de vue sur RMC en direct ce matin avec nous. Ludo, vous faites comme Ludo, vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit, vous composez le 3216 ou vous envoyez vos messages sur le WhatsApp au 06 12 424 424.
Dans un instant, c'est le mondial d'Antoine. Bonjour Antoine Salva.
Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. On reviendra bien entendu sur la qualif renversante de l'Argentine hier face à l'Angleterre.
Qualif qui ravit Virginie Fulpin, vous allez voir. Et puis à 5h.
Je pense que je ne suis pas la seule. On a quelques-uns à avoir adoré l'Argentine.
C'est vrai, mais j'aime bien vous taquiner. Allez, à 5h50, on va s'intéresser aux saisonniers, les serveurs, les ouvriers agricoles, les agents d'entretien, ces postes essentiels dans les périodes de forte activité et qui ont pourtant bien du mal à être pourvus. Notre invitée ce matin, c'est Laura Krasniqi, la directrice générale de My Season. C'est une plateforme de mise en relation entre employeurs et candidats.
Allez, vous restez bien là, il est 5h42, on revient dans un instant sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Virginie Fulpin, Victor Pourchet.
Excellent début de matinée avec nous sur RMC. Il est 5h43 et on va repartir aux États-Unis.
RMC,
le mondial d'Antoine.
Antoine Salva, vous allez revenir sur la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde hier entre l'Argentine et l'Angleterre.
Oui Virginie, on ne cessait de le répéter depuis des jours, ce match était bien plus qu'une simple rencontre de football dans le contexte du conflit des îles Malouines. Et cela s'est ressenti dès les premières notes de God Save the King, sifflées par le public argentin, les Anglais leur rendant bien dans la foulée. Pour couvrir les sifflets, un hymne chanté avec passion par les coéquipiers de Messi à la limite de la transe et une excitation retranscrite sur le terrain durant une première période tendue qui n'a pas vu de but mais beaucoup de fautes, 19 en seulement 45 minutes.
Ouais, et peu d'action, un match fermé dont le scénario s'est débloqué en deuxième période.
Tout à fait Victor, au retour des vestiaires, Gordon ouvre le score pour les Anglais, ainsi d'un seul coup le match change de physionomie au gré des ajustements tactiques de part et d'autre et surtout de la frilosité du sélectionneur anglais Thomas Tuchel, décidant de mettre le bus. Mauvaise tactique, puisqu'après avoir trouvé deux fois les montants, l'Albi Céleste égalise par Enzo Fernandez à la 85e minute de jeu, avant le but de la délivrance commenté par Aurélien Tiersin.
Messi, sur le côté droit de la surface de réparation, qui accélère, le pied droit, le centre, au deuxième poteau, c'est Lautaro et l'Argentine qui vient tuer l'Angleterre.
Incroyable.
En 5 minutes.
10 minutes après son entrée en jeu, Lautaro Martinez envoie l'Argentine en finale dans les arrêts de jeu pour le plus grand bonheur du milieu de terrain, Leandro Paredes.
Les sensations sont forcément uniques, indépendamment du résultat de l'adversaire ou de tout le reste. Je pense que nous avons livré un très bon match en le maîtrisant presque de bout en bout. Le plus important, c'est que nous sommes de nouveau en finale d'une Coupe du Monde, et ça, c'est quelque chose d'unique.
Et également pour le plus grand plaisir de Virginie Fulpin, l'Argentine est donc toujours en lice pour un cinquième sacre et Messi pour un second. À 39 ans, l'octuple Ballon d'Or aura l'occasion d'accentuer son avance en tête des meilleurs buteurs des Coupes du Monde. Il en est à 21, dont 8 sur cette édition.
Bon, on va parler des Anglais un peu, c'est la soupe à la grimace.
Oui, ils menaient 1-0 et se sont totalement arrêtés de jouer en grande partie à cause de leur coach. Le capitaine Harry Kane en avait gros sur la patate hier soir.
On est dégoûté pour les garçons, dégoûté pour tout le monde, l'équipe, le staff, les supporters. On a fait un bon match pour la majorité, mais après avoir mené, on a juste voulu tenir le score. Et c'est pas assez de faire ça. On est vraiment dégoûté.
On sent les critiques à peine volées de l'attaquant contre les choix de Thomas Tuchel. Des pincettes dont les médias anglais ne se sont pas embarrassés sur la BBC. L'ancien attaquant de Manchester, Wayne Rooney, a estimé que les décisions prises par Thomas Tuchel ont coûté la qualification à l'Angleterre. Bon, le technicien allemand conserve néanmoins la confiance de la fédération anglaise. Il devrait rester en poste jusqu'au prochain Euro.
Bon, Antoine, retournons côté argentin, qui affronteront donc l'Espagne en finale.
Oui, une albicéleste qui pourrait être privée de certains joueurs dimanche. Car après la rencontre, Lo Celso et Lisandro Martinez ont brandi une banderole portant l'inscription: les Malouines sont argentines. Problème, l'affichage de messages à caractère politique lors des matchs est interdit par les règlements de la FIFA, ce qui pourrait valoir des sanctions à l'Argentine ou aux joueurs. Et là, en face, Nous aurons donc l'Espagne. Tombeur des Bleus, les Iber champions d'Europe en titre auront un avantage substantiel sur leurs adversaires. Qualifiés mardi, ils bénéficient donc d'un jour de repos supplémentaire. Contexte favorable pour l'équipe concernée qui s'est vérifiée lors des 13 dernières finales de tournois majeurs, masculins et féminins confondus.
Et avant la grande finale, il y aura la nôtre, la petite, samedi soir, entre l'équipe de France et l'Angleterre.
Et oui, ce sera donc le dernier match de Didier Deschamps à la tête des Bleus, encore groggy par leur élimination. Un match que ne disputera pas William Saliba, blessé au dos. Le défenseur d'Arsenal devrait se faire opérer et être absent 4 à 5 mois. Quoi qu'il en soit, le sélectionneur devrait faire tourner demain. Bon courage pour trouver des joueurs motivés. Et pour info, il faut remonter à l'édition 82 pour trouver trace d'une défaite face au sujet de Sa Majesté en tournoi majeur.
Bon, on la suivra tout de même sur RMC, cette petite finale samedi soir. Merci beaucoup Antoine Salva, même si c'est vrai que vous avez un peu remué le couteau dans la plaie ce matin. À RMC, il est 5h47.
Et je vous rappelle qu'on joue ce matin, on joue au mot caché. À tout moment, on prononce, on a déjà prononcé un mot qui sort de l'ordinaire. Si vous pensez l'avoir identifié, vous envoyez mot et moté par texto au 7-32-16. Et peut-être que vous gagnerez votre Coffee Bird, la machine expresso nomade d'Aquila que vous pouvez emmener absolument partout avec vous et qui vous sert un excellent café.
Ah tiens, la magie d'Harry Potter s'installe dans le ciel français. Avec un grand spectacle de drones pour marquer les 25 ans de la saga, 1500 engins réunis dans un ballet lumineux, formant les visages des personnages, des références aux scènes cultes, accompagnées évidemment de la bande-son mythique entrecoupée de dialogues.
Attends, c'est pas n'importe quel ballet, Harry! C'est un Nimbus 2000!
Ouais, c'est pas à n'importe quel prix non plus. 45 minutes de show, entre 40 et 60 euros la place pour un adulte, autour de 30 euros pour un enfant. Et en fait, c'est une tournée des hippodromes. Ce sera près de Lyon, 31 juillet et 1er août, à Nantes en août, et puis il y aura Nice en septembre ou encore Paris en octobre. Il est 5h49 sur RMC dans un instant. C'est votre interview à votre service, mais d'abord les trois grands titres de l'actualité ce matin, Virginie.
Jérôme Barella, mis en examen pour le viol et le meurtre de Liana, jusqu'à présent le principal suspect dans la mort de la collégienne dans le Gers, n'était poursuivi que pour enlèvement et séquestration. Il a été présenté hier à un juge d'instruction. Plus de 85 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs recensées par les parquets dans toute la France. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, avait demandé au procureur une revue des plaintes après les dysfonctionnements constaté dans l'affaire Liana. 1350 enquêtes ont été ouvertes depuis le 8 juin. Puis les Girondins de Bordeaux, relégués en Régional 1, la 6e division du football français. La Direction nationale du contrôle de gestion exclut ce club historique des championnats nationaux. Les Girondins se dirigent vers une liquidation judiciaire.
À 5h50 sur RMC.
RMC, à votre service.
Hôtellerie, restauration, agriculture, tous ces secteurs qui fonctionnent grâce à des centaines de milliers d'emplois saisonniers chaque année. Ils représentent près d'un tiers des projets recrutement selon France Travail. Et pourtant, ils peinent à faire le plein. En 2022, 300 000 postes n'ont pas été pourvus.
Bonjour Laura Kasnicki.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale d'Oma & Season, une plateforme de recrutement de saisonniers. Alors, il y a du travail, il y a aussi des candidats potentiels en recherche d'emploi. Alors, pourquoi le recrutement est si difficile?
C'est vrai qu'on entend un petit peu partout que les candidats veulent plus travailler. C'est pas du tout ce que nous on observe chez Oma & Season. On a plus de 100 inscriptions par jour. En pleine période de recrutement, on monte jusqu'à 200-300 inscriptions. Donc des candidats, il y en a. En face des entreprises qui recrutent, il y en a aussi. Le souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à se retrouver en fait. Aujourd'hui, ils vont passer par des alternatives comme Facebook, les sites généralistes. Mais finalement, très peu sont adaptés aux emplois saisonniers. Donc nous, on a décidé de créer une plateforme qui vraiment centralise toutes les offres propres au métier de la saison.
Et concrètement, je cherche une mission, comment je m'y prends?
Alors, en tant que candidat, c'est simple, vous inscrivez sur la plateforme, ça prend vraiment 2 minutes. À partir de ce moment, vous avez accès en fait à une map qui permet d'identifier toutes les offres d'emploi dans toute la France. On a quelques missions aussi à l'étranger. Et ce qui est assez intéressant dans notre démarche, c'est que les candidats peuvent vraiment tout savoir de l'emploi. Typiquement, on met en place des photos du logement, les conditions du logement. Est-ce que le poste est logé ou non? Mais surtout, comment il est logé? Est-ce qu'on parle d'un logement individuel, d'une chambre en colocation, une participation ou non? Est-ce que, par exemple, je peux venir avec mon animal de compagnie? C'est vrai que beaucoup de candidats veulent venir avec leur petit chat, leur petit chien. Donc, c'est toutes ces infos qu'on a mis à disposition pour que les candidats soient mieux informés au moment de postuler.
Et les employeurs, ils voient le profil des candidats aussi sur l'application?
Oui, tout à fait. Ils voient à la fois le profil, les dates de disponibilité, puisqu'on parle de métier saisonnier, donc il y a aussi beaucoup d'inattendus, faut savoir être flexible. Donc les candidats peuvent partager un petit mot aussi pour montrer leur motivation, bien sûr leur CV, et aussi leur disponibilité tout au long de la saison. Et sur le même principe, ils ont aussi toutes les informations propres à leur parcours. Est-ce qu'ils ont un animal ou non? Est-ce qu'ils seront le permis, la voiture, etc.?
Alors, on s'en doute, mais ça va toujours mieux en le disant. Les moments de l'année où les besoins sont les plus forts, c'est quoi? C'est le cœur de l'été, le cœur de l'hiver?
Alors, l'été est bien évidemment
plus important
puisque la saison se rallonge. Les vrais saisonniers, eux, partent pour 9 mois, donc on commence à être sur des grands contrats. Et alors que la saison d'hiver, on est plutôt sur du 2 à 5 mois. Mais ce qui est intéressant sur ce secteur, c'est qu'on peut penser qu'on a de l'activité que l'été ou que l'hiver, mais pas du tout, puisque les recrutements sont de plus en plus anticipés. À titre d'exemple, dans 2 semaines, nous, on démarre tout de suite les recrutements pour l'hiver. Et pour l'été, on les démarre dès le mois de décembre.
Mais ça veut dire que c'est trop tard, là, maintenant, si on cherche, voilà, on veut chercher pour le mois d'août. Ouais, là, on est quoi? Le 16 juillet, il me semble. Oui, c'est ça, le 16 juillet. Oui. C'est trop tard pour le mois d'août, le 16 juillet?
C'est pas trop tard. C'est sûr que c'est pas la meilleure période pour un. Après, tout dépend. Est-ce qu'on cherche un job étudiant uniquement pour le mois d'août? Est-ce qu'on cherche plutôt une intersaison de août à novembre ou autre? C'est pas trop tard puisque nous, déjà, sur notre plateforme, on a 100 d'offres en ligne et c'est surtout un marché qui est vraiment très dynamique. Et pour les restaurateurs et les hôteliers, en pleine saison, il y a souvent aussi des imprévus.
Il y a des défections de dernière minute,
Beaucoup de nos choses sur ce secteur, malheureusement, des départs, des blessures en cours de saison. Et donc, il faut pouvoir tout de suite aller chercher quelqu'un. Et c'est ce que permet aussi notre plateforme puisqu'en moins de 30 minutes, le patron peut déposer son besoin et tout de suite, il va recevoir des candidatures qualifiées.
Est-ce que vous avez déjà une visibilité sur cet été, là, 2026? Est-ce que la demande est particulièrement forte? Est-ce qu'il y a des manques de main-d'œuvre particuliers cette année?
Par rapport à l'été dernier, on était sur plus de 500 offres publiées et plus de 25 000 candidatures déposées. Donc, encore une fois, il y a vraiment de la demande. Aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres puisqu'on attend vraiment la fin de saison pour faire un bilan complet. En revanche, ce qu'on a observé, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui viennent justement sur la plateforme pour trouver un premier emploi. On a aussi eu plus de difficultés sur des profils vraiment très spécifiques qui nécessitent un diplôme et de l'expérience, notamment les profils en cuisine. C'est vraiment aujourd'hui le point de difficulté. Et ce qu'on a aussi pu observer cette année, plus que l'année dernière encore, c'est qu'aujourd'hui, le premier critère pour les candidats, c'est vraiment le logement. Et on observe jusqu'à 3 fois plus de candidatures quand le poste vient avec un logement proposé.
Justement, c'était une des questions que nous posait Ludo sur le WhatsApp d'RMC et qui nous a tout de suite demandé, dès le début de l'interview, si les employeurs avaient des possibilités de logement. Ça veut dire que si vous deviez faire un appel aux employeurs, c'est de leur dire, si vous n'avez pas de logement, ça va être compliqué.
Ah oui. Et encore plus quand l'établissement est un petit peu en zone reculée, qu'il n'y a pas forcément grand-chose autour. Donc là, non seulement il faut que le candidat trouve un logement, mais il faut aussi qu'il soit véhiculé. Donc ça rajoute pas mal de contraintes qui font que le candidat préfère, entre guillemets, ne pas trop se casser la tête et plutôt aller sur un poste logé et pouvoir se concentrer vraiment sur son cœur de métier. Donc le logement, c'est vraiment indispensable. Et si il n'y a pas de logement, dans ce cas, nous, on recommande aux entreprises de proposer une prime, une aide au logement pour qu'ils puissent au moins avoir ce petit plus, quoi.
Oui, parce que le logement dans les zones particulièrement touristiques, ça coûte très cher. Merci
très
beaucoup.
Très cher et il n'y en a pas beaucoup aussi.
Ça fait double peine. Merci Laura Kasnicki. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Omae Season. Merci d'aider et les employeurs et ceux qui cherchent un emploi de saison.
Le petit boulot de l'été, il est 5h50. 56 sur RMC tout de suite. C'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Aujourd'hui, c'est la sortie d'un des films les plus attendus de l'année.
Le roi d'Ithaque va revenir.
Ne crois pas ça.
Un film
XXL de près de 3 heures, 250 millions de dollars de budget. C'est un des plus gros jamais dépensés par Christopher Nolan. Le tournage a eu lieu dans 6 pays avec des scènes tournées en pleine mer. Et évidemment, c'est un casting 5 étoiles avec notamment Robert Pattinson, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway ou encore Charlize Theron.
Ce film est donc l'adaptation de l'Odyssée qui est l'un des plus vieux textes de l'Occident.
Et oui, l'Odyssée, c'est la suite d'un autre livre qui s'appelle l'Iliade. Ce texte date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est un récit d'aventure, mais avec une forme originale, puisqu'en fait, l'Odyssée, c'est un poème, un très long poème épique de 12 000 vers.
Alors de quoi ça parle ?
Alors voilà l'histoire. Le héros s'appelle Ulysse. Il a combattu pendant la guerre de Troie, une guerre mythologique qui a opposé donc les Grecs aux Troyens. Cette guerre de Troie, entre nous, on ne sait pas vraiment si elle a eu lieu. Bref, Ulysse s'est bien battu. Maintenant, il doit rentrer chez lui. Chez lui, c'est dans l'île d'Ithaque, une île dont il est le roi. Sa femme Pénélope l'attend là-bas, dans son île. Sauf que pendant son voyage, eh bien, il va affronter 1000 péripéties. C'est le sujet de l'Odyssée.
À l'origine, qui est l'auteur de ce livre ?
Alors, d'abord, précisons que tout ça, c'est quand même très, très ancien, donc on est sûr de rien à 100%. Mais, a priori, l'auteur de l'Odyssée, c'est un poète grec qui s'appelle Homère, qui a donc vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. On ne sait pas grand-chose de sa vie, mais ce qu'on sait, c'est qu'il était aveugle et surtout que c'était une énorme star de la littérature à l'époque qui était admirée et connue dans toute la Grèce.
L'Odyssée, c'est un livre mythique. En fait, ça date de quand la renommée de l'Odyssée ?
Alors justement, il faut se rendre compte de l'étendue du phénomène. Apolline, c'est un cas unique. Depuis 2500 ans, on lit et on étudie l'œuvre d'Homère dans toute l'Europe, en Grèce, à Rome, au Moyen-Âge, à la Renaissance, jusqu'à aujourd'hui évidemment. En gros, c'est un livre aussi important que la Bible dans notre culture. À ce jour, l'Odyssée compte 250 traductions, 920 éditions différentes et plus de 45 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.
Avant ce film de Christopher Nolan, est-ce que ça avait déjà été adapté au cinéma ?
Plein de fois, évidemment. La toute première, ça date des tout débuts du cinéma. C'était en 1905. C'était un film muet de 4 minutes qui s'appelait L'île de Calypso où Ulysse est le géant Polyphème. Mais l'adaptation qui va cartonner, c'est un péplum sorti en 1954 qui s'appelait tout simplement Ulysse. Et dans le rôle titre, c'était Kirk Douglas. La dernière adaptation est très récente, c'était en 2024. Ça s'appelait The Return, le retour d'Ulysse. Et c'était avec, entre autres, Juliette Binoche.